vision d'histoire.
Chers auditeurs et auditrices de Radio Galilée, bonjour. Je m'appelle Martine Dumais, je suis historienne. Fait plaisir de vous retrouver, comme à chaque semaine. Et aujourd'hui, nous retrouvons avec grand plaisir M. Sébastien Daume, qui est professeur en études bibliques à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval et qui a dirigé un ouvrage qui s'appelle « Questions controversées sur Jésus » aux éditions Novalis en 2023. Bonjour M. Daume.
Bonjour.
Merci d'être là encore cette semaine. On avait exploré certains chapitres de l'ouvrage la semaine dernière. C'est un ouvrage qui est particulier dans, je dirais, son objectif, mais aussi la confection. Vous avez rassemblé différents spécialistes pour faire œuvre commune.
Oui, et on a aussi écouté notre public. Donc, on a fait quelques regroupements de personnes qui sont des habitués de chez Novalis, et même, on a regroupé les secrétaires réceptionnistes et les personnes qui travaillent à Novalis pour voir quelles sont les questions qu'ils portent au sujet de Jésus. Donc, ça a donné des questions qui étaient, bon, des questions classiques, hein, comme, bon, Jésus avait-il des frères et des sœurs, est-ce qu'il a vraiment existé, mais aussi des questions un petit peu plus curieuses ou qui sont plus au goût du jour, et les questions que nous, on avait. Certaines des questions comme académiques, tu sais, que nous, on ferait une thèse de doctorat là-dessus, ils nous ont dit non, il y a personne qui veut rien savoir de ça, là. Allez, parlez-nous de ce qu'on veut savoir. T'sais. Donc, le choix des questions a été très intéressant et important.
Donc, cette semaine, on va poursuivre dans ces questions. Il y a une première partie qui est sur le Jésus raconté. Et si on allait dire, vous dites, je pense que le questionnement, c'est quelle sorte d'homme était le Fils de l'homme? Déjà, on joue avec un H majuscule et un H minuscule. Dans quel sens ça va, ce chapitre-là?
Alors, c'est moi qui l'ai écrit. Oui, c'est de poser la question, quelle est la masculinité de Jésus? Alors, ça fait au moins une centaine d'années qu'il y a des travaux féministes sur les textes bibliques qui travaillent sur notamment les femmes dans la Bible, qui travaillent sur le genre. Mais il n'y a pas juste les femmes qui ont un genre. Les hommes aussi sont marqués par ça. Mais c'est de voir quelles sont... Tu sais, il y a plusieurs façons d'être homme dans les textes bibliques, mais Jésus, lui... Quel genre d'homme est-il dans la manière qu'on le raconte en Matthieu, Marc, Luc, Jean, les lettres de Paul? Et les réponses sont différentes d'un texte à l'autre. Et autant on peut avoir un Jésus qui réussit à avoir une performance masculine hégémonique, classique, tu sais, qui est capable de prendre sa place parmi d'autres hommes. Alors, quand il y a un débat sur la place publique, il en sort toujours gagnant contre les pharisiens. Il y a une douzaine d'hommes et plus qui le suivent tout le temps. Tu sais, sa parole est efficace. En tout cas, bref, il était même ses combats contre les démons, il les remporte. Et en même temps, c'est aussi le Jésus qui finit par être crucifié. Donc, il est littéralement transpercé par d'autres hommes. Et par rapport à la crucifixion, on a des textes romains où un rhéteur plaide, un avocat plaide pour son client en disant « Mais un citoyen romain peut pas subir ce genre de d'humiliation-là. C'est pas un homme. Crucifier quelqu'un, il n'est plus homme quand il se fait crucifier. » Donc, on a une forme de masculinité complètement subordonnée. Donc, comment est-ce qu'on comprend cette masculinité-là de Jésus? Et notamment, dans ce chapitre-là, je parle de MeToo, de voir qu'avec MeToo, on a tout d'un coup, dans notre culture, pris conscience de l'importance puis à quel point il y a des violences sexuelles, notamment par rapport aux femmes. Mais dans les textes du Nouveau Testament, par rapport à la crucifixion de Jésus, en Matthieu, par exemple, il y a plein d'éléments qui ont une connotation sexuelle qu'on relève pas. Alors, Jésus est dénudé 3 fois dans la Passion en Matthieu, publiquement. Et il y a une cohorte entière qui est là, de soldats, qui sont là, qui se jouent de lui. Et il finit crucifié nu. Dans la tradition chrétienne, on a, et comme un peu dans la culture actuelle, on a eu tendance à pas voir ça, à rhabiller Jésus, puis à pas voir cette souffrance sexuelle de Jésus. Donc, ce chapitre-là ose, à quelque part, lever le voile, puis de regarder vraiment quel genre d'homme était Jésus par rapport aux standards de la masculinité de l'époque, et de voir en quoi est-ce que ça nous donne à penser, de penser Jésus tu sais, pleinement homme, mais vraiment dans le côté masculin de ça et pas sans donner à penser sur notre propre masculinité. Moi, comme homme, comment je me situe par rapport à l'homme qui était Jésus? Donc, c'est oui, je pense que c'est une des questions qui est plus novatrice dans le livre.
Et qui est très en lien avec notre monde d'aujourd'hui, ce qui est à l'image du livre où ça revient à quelques reprises, ce questionnement-là par rapport à nous aujourd'hui.
Oui, on regarde toujours nos textes anciens à partir de notre culture, on peut pas éviter ça. Mais je pense que ça nous donne, c'est pas quelque chose de négatif. Oui, c'est des biais. On n'en parlerait pas de la même manière il y a 50 ans, mais c'est aussi des opportunités. On est situé dans une culture qui va regarder Jésus d'une certaine manière, puis qui va développer une réflexion qu'on n'aurait pas pu développer il y a 50 ans, puis c'est tant mieux.
Et dans ce chapitre-là, vous allez aussi avec une étude sur le sermon sur la montagne.
Ah oui, le sermon sur la montagne, effectivement, parce que là, on a toutes sortes de directives qui sont faites aux disciples, mais donc j'essaie de voir quelles sont ces indications-là, quel genre d'instruction est-ce que Jésus donne à ses disciples masculins, quel genre d'homme que c'est, et on voit que c'est des hommes qui sont placés dans la situation d'être martyrs, entre autres, puis de devoir souffrir comme Jésus lui-même souffre. C'est pas, il dit pas à ses disciples de devenir des conquérants, de prendre le pouvoir, de passer des lois, puis d'être en charge de qu'est-ce qui se passe. Au contraire, c'est de le suivre dans cette souffrance et cette passion-là, puis que Dieu va être avec eux à travers ça. Donc, il y a vraiment quelque chose à réfléchir sur notre propre forme d'être. Si on veut être des disciples masculins de Jésus, quel genre de masculinité peut-on exercer? Donc oui, de relire le sermon sur la montagne à partir de ça peut donner des angles de lecture qu'on n'avait pas. Donc oui, je pense que ça vaut la peine de parcourir ça.
La quête du Jésus historique nous a ramené aussi souvent que Jésus n'est pas à la base un chrétien, mais un juif. Et vous explorez cette oui. question-là.
Marx n'était pas marxiste et Jésus n'était pas chrétien. Ça existait tout simplement pas. Et d'ailleurs, si à une certaine époque, on coupait les choses au couteau, puis qu'on était à partir de Jésus et ses disciples, ben là, ça, c'est des chrétiens, puis avant lui, c'est des juifs, puis que les personnages dans l'Évangile qui sont des juifs, ben c'est les méchants. Les autres, on dit juste pas qu'est-ce qu'ils sont, puis on pense implicitement que ce soit des chrétiens. Là, la recherche actuelle tend à dire que les frontières sont beaucoup plus souples et complexes, et que dépendamment du lieu, la frontière entre qu'est-ce qui est juif, qu'est-ce qui est chrétien, ben ça va peut-être prendre 400 ans avant que ça soit très clair. Que pour des Romains, ben les juifs qui suivent Jésus puis ceux qui suivent pas Jésus, c'est tous des juifs là. Puis on n'en veut aucun à Jérusalem à partir de 135 après la deuxième révolte. Donc aux yeux des Romains, il y a pas cette distinction là, embarque pas avant longtemps. Et pour les chrétiens eux-mêmes, ceux qui suivent Jésus, ben les premiers qui suivent Jésus sont bien entendu juifs, puis Jésus aussi. Mais même par la suite. Qu'est-ce qui nous dit que Matthieu écrit pas son évangile pour des disciples juifs de Jésus? Qu'est-ce qui nous dit que on peut pas mieux comprendre les lettres de Paul si on se met pas dans la peau de quelqu'un qui est juif, qui écrit ça à des juifs et aussi à des gentils? Et c'est, encore une fois, on revient à notre culture. Au 20e siècle, on a eu la Shoah, on a eu des désastres incroyables. Même présentement, il y a une guerre en Israël qui est vraiment horrible et qui teinte notre regard sur qu'est-ce qui est juif, qu'est-ce qui est chrétien, puis comment est-ce que, tu sais, quand on veut se dissocier d'un certain groupe, ben on va lire les évangiles en dissociant celui qui est proche de nous aussi. Donc, à la recherche de Jésus historique a beaucoup travaillé sur la rejudaïsation de Jésus.
Et d'ailleurs, on parle souvent de judéo-christianisme pour les premiers temps.
Oui, mais et même encore aujourd'hui, on va parler de notre culture judéo-chrétienne, mais ce qui est drôle, c'est qu'on le fait toujours quand on veut en parler de façon négative. Ah oui, ça, ce rapport à la culpabilité, ça, c'est judéo-chrétien. Mais il y a aussi des choses positives qui sortent de la culture juive et chrétienne.
Sébastien Daune, un autre chapitre s'attarde à la question de la relation entre Jésus et la loi de Moïse. Et la grande question, dans le fond, est-ce qu'il était rebelle par rapport à la loi de Moïse? Est-ce qu'il respectait la loi de Moïse? Tout ça est remis en contexte de façon très, très large, puisque vous remontez jusqu'au monde mésopotamien.
Oui, bon, alors Francis Daou, qui signe ce chapitre-là, va comparer la Torah, la loi de Moïse, avec les lois de culture environnante, donc la Mésopotamie qui est plus ancienne. Puis pour Francis, il met l'accent sur le fait que les lois bibliques, même s'ils nous semblent sévères, comme œil pour œil, dent pour dent, ben sont peut-être moins sévères que d'autres lois qu'il y avait avant. Là. C'est-à-dire, ben si quelqu'un t'a crevé un œil, ben t'as juste le droit de crever un œil, pas deux, puis pas le tuer. Tu sais. Donc Francis replace un petit peu le rapport à la loi et aussi réfléchit sur le rapport de Jésus à cette loi de Moïse là. Et c'est complexe, hein, parce que par exemple dans le sermon sur la montagne au début, on a ben je suis pas venu abolir mais accomplir, puis il n'y a pas un iota qui va changer, et en même temps, ben il passe le reste du texte à dire « on vous a dit que, moi je vous dis que ». Donc, bon, OK, tu veux accomplir, mais ton accomplissement est assez particulier, là, tu sais. Donc, il y a un rapport qui est complexe et qui va pas de soi, puis on peut pas dire « ben Jésus reste toujours dans les conventions », il entre dans les débats. Puis c'est ce qu'on va voir par la suite dans la littérature rabbinique, c'est que c'est normal dans ces cultures-là d'entrer en discussion. OK, la loi dit que le sabbat commence le vendredi au coucher du soleil. Mais attends, est-ce qu'on peut en parler? C'est quand le coucher du soleil, tu sais? Puis est-ce qu'il faudrait faire attention puis commencer plus tôt? Ou bon, en tout cas, bref, donc sur toutes les questions, il faut pas travailler. Oui, mais c'est quoi ça le travail? Donc Jésus va on a plein de scènes sur le rapport au sabbat. Donc il est assez libéral sur son rapport au sabbat et en même temps, il est plutôt conservateur sur d'autres textes. Donc on entre dans ce dialogue avec la Torah. Mais moi, ce que je pense qui est fondamental pour les lecteurs que nous sommes aujourd'hui, c'est de voir que on a trop souvent mis de côté l'Ancien Testament en disant « Ah, c'est ancien, moi je suis Jésus des Évangiles, le sabbat, ça c'était avant, je m'en fous. Jésus l'a pas respecté d'ailleurs. » Mais et non, c'est impossible qu'il a pas respecté le sabbat. Il a vécu le sabbat toute sa vie. Il y avait aucun problème à guérir des personnes le sabbat, mais c'était le sabbat. À quelque part, je trouve que le christianisme, de mon point de vue à moi, qui relie l'Ancien Testament à tous les jours, a mis de côté beaucoup trop rapidement l'ensemble de cette Torah-là. Donc, ce chapitre-là essaie de ramener ça dans le dialogue. Mais le petit chapitre est aussi intéressant, là, Jésus est-il hors la loi? Jésus finit crucifié. Hein? Alors donc, ultimement, il est considéré comme quelqu'un qui mériterait la chaise électrique aux États-Unis au 20e siècle. Donc, et ça aussi, on a mis ça de côté. On a tellement valorisé Jésus, puis vu en lui le Fils de Dieu qu'il est dans la tradition chrétienne, qu'on a oublié qu'il est sorti des normes tellement qu'il a été crucifié, puis on finit par se demander « Mais pourquoi au juste qu'il meurt? » T'sais, il meurt parce qu'il il dérangeait. Là. Donc, si notre figure de Jésus dérange pas, puis qu'un beau Jésus qui aime tout le monde, ben ça fonctionne pas. Il meurt crucifié, pourquoi? Hein? Donc, en tout cas, bref, donc ça fait partie des questions qu'on pose.
Et en explorant les textes comme exégète, vous dites et vous rappelez l'importance des divergences qui existent entre les différents évangiles.
Oui, et ça, c'est fascinant de voir que l'Église a pas cherché à harmoniser ces évangiles-là dès le départ. Oui, il y a eu des efforts d'harmonisation par la suite, où on a fait un seul texte à partir des quatre, ou bon, mais on a gardé quatre textes, et quatre textes sont différents, puis les pères de l'Église vont réfléchir sur, ils vont même faire ça comme quelque chose de très spirituel, que c'est important qu'il y ait quatre textes comme les quatre points cardinaux, mais ça nous donne qu'on pourra jamais avoir une image de Jésus. On a quatre personnages de quatre évangiles qui sont similaires, mais différents. Dans l'évangile de Jean, Jésus, il parle de lui, ego et mi. Je suis la porte, la lumière, la vérité, je suis le bon berger. Il parle de lui tout le temps. Mais dans les trois autres, il parle pas de lui, il parle du royaume qui vient. En Marc, on a un Jésus qui agit tout le temps, qui est toujours en action. En Matthieu, Luc, Jean, on a des Jésus qui vont prendre la parole, vont faire des grands, grands, grands discours qui durent des chapitres de temps. Donc, on a des personnages très différents dans les quatre évangiles. Et le fait qu'on a gardé ces quatre textes divergents-là nous aide à garder une complexité dans la façon de concevoir de Jésus. C'est-à-dire que Jésus, on sera jamais capable de dire « Ah, il est ceci ». Oui, il est ceci, mais aussi cela, puis cela, puis cela.
Et cette étude des textes vous amène aussi à porter une attention toute particulière à l'importance des paraboles.
Oui, paraboles qui, eux aussi, sont polysémiques, plusieurs sens. Alors, il y a quelques rares paraboles où Jésus va donner la clé, dire « OK, le grain veut dire ceci, là. » Mais la plupart des paraboles sont ouvertes. Ils nous racontent une petite histoire et c'est au lecteur de voir qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça. Et tout dépend de où on s'identifie. Est-ce qu'on s'identifie au bon samaritain, puis que la parabole, c'est de devenir soi-même un bon samaritain, ou est-ce qu'on s'identifie à celui qui s'est fait tabasser, puis dire que quand on est dans le besoin, on va avoir besoin d'aide, ou dans celui s'identifie dans le prêtre, puis le lévite qui passe à côté, ou que sais-je, est-ce qu'on s'identifie à la bête de somme qui porte le... Bref, et est-ce qu'on pourrait faire un commentaire spirituel de ça, économique, politique, géographique, parce que bon, ça a rapport avec la Samarie. Il y a toujours plein de portes d'accès à ces paraboles-là qui restent très intéressantes, justement parce qu'ils donnent à penser.
Vous avez aussi eu l'idée de questionner si Jésus était quelqu'un qui avait une conscience écologique. Ça, c'est quand même plus surprenant.
Jésus n'a jamais voté pour le Parti vert, ça, je vous l'assure. Les textes bibliques ne parlent pas de changement climatique de la manière que nous, on en parle. Donc, l'auteur qui travaille ce texte-là, Anne-Marie Chapleau, ne cherche pas la Bible pour des clés, pour des solutions à nos problèmes actuels, mais plutôt à entrer en dialogue avec ces textes-là et de voir quel était le rapport de l'humain avec ce qui l'entourait à l'époque et aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on a la nature, là, c'est ce qu'il y a de l'autre bord de la fenêtre ici, là. Je regarde dehors, là, la nature, c'est là-bas. Moi, je suis à l'intérieur de ma maison, je suis en dehors de la nature. Mais on n'a pas cette séparation-là avant la modernité. Et les textes bibliques, même le rapport à la distinction entre qu'est-ce qui est animal, qu'est-ce qui est humain, c'est plus complexe qu'on pense. Et on projette toujours sur les textes nos distinctions modernes, mais nos distinctions modernes ont amené les problèmes écologiques qu'on a. Puis peut-être que de retourner à d'autres systèmes de pensée où le rapport est plus fluide, plus complexe, et où la nature n'est pas quelque chose qu'on peut extraire pour nos propres profits, peut être aidant. Puis de retourner à une théologie de la création, entre autres, de voir que Dieu crée et trouve ça bon, puis qu'on est une des parties, pas la seule, et de voir que oui, il y a le texte de Genèse qui en parle, mais il y a d'autres textes aussi ailleurs, où dans Job, par exemple, Dieu va prendre plusieurs chapitres pour répondre à Job. Job, il se dit, comment ça se fait que je souffre? Mais Dieu, il dit, attends, viens, est-ce que tu as déjà vu un aigle donner naissance? Est-ce que tu sais ce monstre-là qu'il nourrit puis qu'il joue avec lui avant l'aube? Il nous montre comment la terre est pas juste pour l'humain. Et aussi qu'il y a des relations entre les animaux et Dieu. Que ces animaux-là vont le prier, il va avoir des lamentations qui sont autres qu'humaines dans les textes bibliques. Bref, ça pour dire que je pense qu'il y a quelque chose à relire les textes bibliques à partir de nos questions actuelles, mais pas juste dans une logique simpliste de dire « Ok, la Bible nous dit ça, il faut le faire », mais de voir que peut-être qu'on peut penser notre rapport à la nature autrement en allant puiser dans ces textes qui sont très anciens.
Sébastien Daune, on voit très bien comment vous remettez en contexte historique plusieurs éléments dans cet ouvrage. Et vous vous dites souvent, il y a une culture aujourd'hui, mais il y avait une culture à l'époque. Et quand on arrive sur la question de la descente aux enfers, vous y voyez un lien avec les mythes qui existent à l'époque.
Oui, alors donc c'est François Doyon qui signe ce chapitre-là sur la descente aux enfers. Alors, il nous parle peut-être avec un clin d'œil de dire que Jésus a vécu une fin de semaine infernale. Dans certains passages du Nouveau Testament, on dit ben il est descendu dans les inférieures régions de la terre en Éphésiens ou dans les Actes. Il n'a pas été abandonné au séjour des morts. Sa chair n'a pas conduit à la décomposition ou dans la lettre de Pierre qui s'en va en prison. Donc, on a cette tradition dans les textes du Nouveau Testament où on a un Jésus après la mort qui va aux enfers, puis qui relève des personnes qui sont décédées avant lui pour ouvrir les portes du paradis. Bon, François Doyon, qui est philosophe, donc qui connaît très bien la littérature sur la mythologie grecque, bon, on va faire des liens avec Héraclès, qui fait des allers-retours en enfer, puis de voir que des textes bibliques du Nouveau Testament n'ont pas été écrits en dehors de la culture. L'incarnation, c'est ça aussi. C'est-à-dire que le christianisme a été dit à partir d'une certaine culture à une certaine époque, puis qui n'était pas en vase clos, qui reprenait des textes, ben dans ce cas-ci, peut-être que c'est en lien avec des textes autour d'Héraclès de la philosophie, mais on a parlé de la Mésopotamie, les 10 commandements, ben peut-être qu'il y a des fondements dans les lois antérieures d'autres cultures, même dans les livres des proverbes, on a des proverbes qui sont des copier-collés de proverbes égyptiens. Donc on a vraiment de tout. C'est pas en vase clos. Donc oui, c'est bon d'explorer aussi d'autres textes dont on parlait d'intertextualité la semaine passée. Mais c'est ça, cette intertextualité-là peut être avec les textes de la Bible, mais peut aussi être avec les textes de l'époque pour voir en quoi est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique de ce Jésus-là, puis en quoi est-ce qu'on essaie de dire ce Jésus-là en rapport avec la culture de l'époque aussi.
On sait que dans les textes bibliques, il y a une chose très importante dans les textes pour Pâques qui nous présente des femmes comme les premières témoins et des femmes qui alertent les disciples, tout ça. C'est un peu incontournable, il fallait s'y attendre, vous alliez avoir un chapitre sur la question des relations entre Jésus et les femmes.
Oui, et écrit par une femme aussi, qui s'intéresse à ça d'un point de vue historique, Odette Mainville. Donc, elle présente différents personnages féminins, puis leur rapport à Jésus. Mais oui, effectivement, moi, je pense que c'est ce qui est le plus important. Hein. Les premiers personnages qui voient le ressuscité, qui en parlent, ben, c'est des femmes. Et on voit dans les lettres de Paul, par exemple, à quel point les femmes ont une place dans les premières communautés chrétiennes. C'est ceux qui se rassemblent chez elles qui vont vivre le repas du Seigneur. La lettre aux Romains est donnée dans les mains d'une femme pour qu'elle aille la lire à la communauté à Rome. Donc, il y a quelque chose qui peut surprendre notre culture actuelle de voir que, hey, peut-être que Jésus et sa gang étaient plus proche d'une égalité entre hommes et femmes que notre Église actuelle en l'an 2024. Donc, c'est à quelque part, pour moi, c'est choquant des fois de voir à quel point on a fermé les yeux sur ces textes du Nouveau Testament, ces parties-là, qui donnent une grande importance aux femmes. Et le rapport aux femmes, mais tu sais, Jésus, son rapport aux femmes est très différent. Il se laisse toucher physiquement et émotionnellement aussi par les femmes, alors que, ben, tu sais, quand Jésus rencontre un homme sur la place publique, ils échangent, ils parlent. Mais la femme peut pas entrer de cette façon-là en dialogue avec lui directement. Elle va commencer par toucher son manteau par en arrière, laver ses pieds avec ses cheveux. Donc, il y a ce contact physique-là et qui étonnait les personnages. Mais tu connais pas cette femme-là? Elle vient avec toute une réputation, là. Tu sais, c'est tout le monde la connaît, là. Puis c'est pas pour les bonnes raisons. Tu te laisses toucher par elle. Puis Jésus dit oui. et à quelque part, il y a une conversion de notre regard là-dessus. Et je pense que, bon, ça fait déjà plus de 100 ans qu'il y a des études féministes sur les textes bibliques. Mais je pense qu'il faut continuer à travailler ça parce que, clairement, ça n'a pas passé, entre autres, dans la culture catholique actuelle. Et je dis pas ça pour choquer, mais je dis ça pour prendre racine avec Jésus et avec le mouvement qu'il a initié, puis de retourner à ce qui était important pour ce mouvement-là. Parce qu'assez vite, ça s'est rigidifié. On a même dans les textes des lettres de Paul des passages où qui sont misogynes, où on met la femme à sa place, dire qu'elle n'a pas de place pour prendre la parole dans certaines assemblées de certaines manières. Mais bref, mais le fait de le dire, ça veut dire que ça se faisait, là. Donc, on a déjà une ambiguïté puis des questions qui se posent, là. Le livre, ce que vous voulez faire, c'est d'ouvrir la question, de dire, bon, ben, ça existe depuis 100 ans, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas en parler encore aujourd'hui? Puis pourquoi on pourrait pas en parler ouvertement dans ce contexte, cet espace qu'on s'est fait entre l'université et l'Église, où on peut prendre la parole sur des questions qui, peut-être, ça serait plus ou moins confortable de parler de ça à l'Église. Donc, bref, oui, un chapitre intéressant là-dessus.
Sébastien Daune, on est à la fin de cette seconde émission. Je rappelle que vous avez dirigé chez Novalis en 2023 un ouvrage qui s'appelle « Questions controversées sur Jésus ». On a évoqué quelques-unes de ces questions-là, il y en a d'autres. Et c'est vraiment un livre qui nous amène à réfléchir. Je pense que c'était la volonté au départ de, vous avez mentionné, je pense, d'entrer en dialogue.
Ouais, entrer en dialogue, puis que ça se veut comme un premier pas vers, puis tant mieux si on sort du livre avec plein de questions, puis de vouloir en savoir davantage, puis aller chercher d'autres livres qui vont permettre d'aller plus loin. Mais c'est vraiment ça, c'est donner le goût de se poser des questions, donner le goût de se les poser aussi de façon plus libre que d'habitude, pas avoir ces contraintes de, bon, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser. Non, on disons, essayons de voir, puis essayons de trouver des réponses honnêtes à travers ça, parce qu'il y a moyen de réfléchir sur ces textes-là autrement que dans des contextes plus ecclésiaux où l'important est plutôt sur la spiritualité, il y a une place pour ça. Mais bon, pour voir aussi qu'est-ce qui se fait du côté académique, ben on peut commencer par ce livre-là, puis qui sait, peut-être poursuivre des études pour aller plus loin.
Hein. Sébastien Daune, on vous remercie beaucoup d'avoir accepté de venir à notre émission.
Ben, c'était un grand plaisir. À la prochaine.
À la prochaine. Merci à Yannick Caron pour la mise en onde, à Mario Blouin pour le choix musical. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission de Vision d'Histoire.